Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisqu'on parle encore et toujours de climat, mais on va mêler temps court et temps long. Et on va inverser l'ordre habituel de notre podcast puisqu'on va tout d'abord avoir un invité qui va nous présenter les résultats d'une enquête menée auprès de citoyennes et de citoyens de l'Union Européenne pour prendre un petit peu la température de leurs préoccupations face au réchauffement climatique et à d'autres préoccupations majeures du monde d'aujourd'hui. Et en deuxième partie d'épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Sylvestre Truette, que les auditrices et les auditeurs du climat en question connaissent bien puisqu'il est présent pour l'ensemble de nos épisodes. Mais cette fois-ci, ce sera mon invité puisqu'il va nous présenter un ouvrage qu'il vient de republier sur les messages clés du rapport du GIEC. Mais commençons déjà par les résultats de cette étude d'opinion. Je me tourne donc vers mon premier invité, Neil Makarov. Bonjour, bienvenue dans le climat en question.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur du think tank européen Strategic Perspective et vous êtes expert à la fondation Jean Jaurès. Et donc vous publiez cette étude aujourd'hui qui nous montre qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça en écoutant les médias, les Européennes et les Européens sont très inquiets par rapport à la crise climatique.
Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle fait l'état des lieux de la place du climat dans les préoccupations de l'opinion publique en Europe, dans les 27 États membres. Et on s'aperçoit qu'en fait, malgré les crises, malgré la pandémie de Covid-19, la crise de l'inflation, la crise énergétique et la guerre en Ukraine, le climat reste parmi les premières préoccupations des citoyens européens. Et 2 citoyens européens sur 5 estiment que c'est une menace imminente pour leur mode de vie. C'est même 1 sur 2 Français qui estiment que le climat est une vraie menace sur leur mode de vie. Donc, on voit que la place du climat dans les préoccupations des citoyens reste extrêmement élevée, ce qui est aussi en décalage vis-à-vis du débat politique qui, lui, voit la place du climat se réduire très fortement.
Oui, et c'est vrai que ça paraît assez surprenant parce que quand on suit un petit peu l'actualité des débats, par exemple, pour les élections européennes, c'est clairement pas le sujet numéro 1, en tout cas, qui est mis en avant par les journalistes ou dans les débats ou même par la plupart des candidats.
Absolument, il y a un décalage béant entre le monde politique qui concentre son attention sur les questions d'immigration, de sécurité ou même de comment détricoter quelque part le pacte vert européen, cette série de grandes réformes sur le climat qui ont été adoptés à l'échelle européenne. Et d'un autre côté, l'opinion publique qui continue à faire du climat, de la crise climatique, une préoccupation majeure, si importante d'ailleurs que 1 Européen sur 2 estime que la crise climatique va affecter le choix de leur lieu de vie, tout simplement parce qu'il y a des inondations, des sécheresses, des feux de forêt qui ont un impact direct sur la vie des Européens. Donc, on voit que l'opinion publique, elle, est de plus en plus sensible à la crise climatique quand le politique, lui, finalement, s'en détourne, voire souhaite abandonner toutes les questions de transition écologique.
Oui, parce que si on regarde les résultats de votre enquête, donc quand on demande aux gens quels sont les sujets qui représentent, selon vous, la plus grande menace dans les 10 prochaines années, le changement climatique arrive devant d'autres sujets comme l'immigration, le chômage, l'intelligence artificielle ou la stabilité économique, qui sont pourtant des sujets qui, dans le discours politique, paraissent beaucoup plus présents. Comment vous expliquez ce grand écart, finalement ?
Il y a un vrai paradoxe, parce que les citoyens et les citoyennes sont de plus en plus concernés, de plus en plus préoccupés. Et en même temps, aujourd'hui, et on le voit en particulier dans la campagne des élections européennes, un monde politique qui se polarise très fortement sur la question climatique, avec une partie de l'échiquier politique notamment qui souhaite en faire un totem à abattre, en tout cas toutes les mesures de transition écologique, qui essaye de dire que la transition écologique est plutôt une contrainte plutôt qu'une opportunité. Et on voit que ce débat politique, en tout cas sur pour ou contre le pacte vert ou pour ou contre l'accélération de la transition écologique à l'échelle européenne, il est vraiment il y a un vrai écart avec la préoccupation des Européens. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les citoyens et les citoyennes souhaitent une transition écologique qui accélère, donc ils ne souhaitent pas de pause ou d'abandon de la politique climatique européenne. En revanche, ils sont plutôt en faveur d'une transition écologique qui est juste socialement et aussi qui permettent de réindustrialiser l'économie. 42% des Français qui ont répondu à cette étude souhaitent que la réindustrialisation verte fasse partie des priorités du prochain mandat. Donc on voit finalement qu'ils associent très rapidement la question du climat avec d'autres questions plus économiques, plus sociales, ce qui montre d'ailleurs que la transition écologique ne s'arrête pas finalement à la seule baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, ça va bien au-delà. Ça peut aussi créer des emplois, réindustrialiser des pans entiers de notre économie et pourquoi pas aussi réduire les factures énergétiques si on permet à chacun en fait de s'équiper avec les solutions de la transition.
Donc votre enquête, elle vient confirmer ça dans un moment, c'est vrai, où on avait plutôt l'impression, on s'attendrait peut-être pas à des résultats aussi clairs.
Non, le climat reste une préoccupation qui est assez constante depuis 2019. Elle est la très forte mobilisation, notamment de la jeunesse sur le climat. On peut le voir avec d'autres études d'opinion à travers les dernières années. On s'aperçoit que le climat fait partie des trois premières préoccupations des Européens et des Français depuis 2019, et cela malgré les crises, malgré la crise de pandémie de Covid-19, malgré la guerre en Ukraine ainsi que la crise énergétique. Les Européens et les Français continuent de placer le climat et la crise environnementale plus largement au sommet de leurs préoccupations et de leurs inquiétudes. Dans cette étude, d'ailleurs, on parle ici, enfin, 2 Européens sur 5 estiment que c'est une menace imminente. Donc, on sent même une angoisse parmi les personnes qui ont répondu à ce sondage.
Oui, et cette dimension de peur et de menace, on va y revenir parce que je trouve que c'est une dimension aussi assez intéressante de l'enquête. Mais je voulais juste vous poser une autre question. Vous avez eu plus de 12 000 personnes donc, qui ont été interrogées à travers l'Union européenne. Est-ce qu'on observe des différences significatives entre les différents pays?
Bah, on s'aperçoit que déjà, la préoccupation climatique est très largement partagée en Europe et il n'y a pas cette division Est-Ouest qu'on souligne très souvent. Par exemple, vous avez des pays comme la Roumanie qui où les citoyens sont extrêmement préoccupés, notamment par les vagues de chaleur et qui conditionnent d'autant plus leur lieu de vie à la question climatique. En tout cas, dans le cadre de cette étude, c'est les réponses, c'est ce qui apparaît dans les réponses des citoyens de Roumanie. Donc, on voit qu'il y a vraiment cet écart entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne ne s'applique pas fondamentalement sur la question du climat. Après, il est vrai que le Sud de l'Union européenne est beaucoup plus préoccupé par les impacts. C'est notamment le cas en Italie, en Espagne et en France, où vraiment la question de l'impact sur l'eau, l'impact des sécheresses, est extrêmement prégnant dans l'étude. Mais le reste de l'Europe reste malgré tout, fait quand même du climat une des grandes priorités, une des grandes menaces pour les 10 prochaines années. Donc on voit que c'est un sentiment qui est relativement bien partagé, à part quelques pays, notamment les États baltes, l'Estonie et la Lettonie. On voit que c'est assez partagé, et même dans des pays qui sont dirigés par des gouvernements très conservateurs, par exemple la Hongrie, où la préoccupation pour la crise climatique est extrêmement élevée, en tout cas dans ce qui apparaît dans le cadre de cette étude. Donc il est intéressant de voir que les différences ne sont pas aussi caricaturales que ce qu'on aurait pu imaginer.
Et alors pour en revenir à l'action de la menace, ce qui semble aussi paradoxal, c'est qu'en même temps qu'une partie des Européens a peur du réchauffement climatique et des conséquences que ça va avoir pour leur mode de vie finalement à relativement court terme, eh bien une autre partie, alors beaucoup plus petite, mais enfin quand même, il me semble que vous citez des chiffres comme 1 personne sur 10, ne croit tout simplement pas au réchauffement climatique, en tout cas n'est pas convaincue que ce soit d'origine anthropique.
Ça, c'est très paradoxal. Il reste un noyau assez dur, malgré les impacts du dérèglement climatique, de personnes qui nient l'origine anthropique du dérèglement climatique. Et on le voit, enfin, ça reste une faible minorité, mais on voit que c'est un peu plus important, notamment dans les catégories les plus jeunes. Quand le reste de la jeunesse, par exemple, se mobilise sur le climat, il reste un noyau dur assez fort de jeunes qui en tout cas, sont doutent de l'origine humaine du dérèglement climatique. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, c'est très difficile à expliquer, ça dépend aussi des cercles de communication dans lesquels ces personnes se situent. On voit aussi de plus en plus de désinformation sur les questions climatiques prendre d'assaut les réseaux sociaux et certaines chaînes d'information. Et cela peut évidemment contribuer à créer une forme de relativisme sur le dérèglement climatique et son origine par les activités humaines. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que ce noyau dur est difficile à réduire En tout cas, à ce stade, en tout cas, c'est ce que montre l'étude.
Oui, ça rejoint d'ailleurs une discussion qu'on avait eue lors de notre dernier épisode sur les mobilisations pour le climat, en essayant de comprendre quel était le profil de ceux qui se mobilisent et puis à l'inverse de ceux qui ne se mobilisent pas. Mais du coup, quelle conclusion vous tirez de cette enquête? Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Est-ce que finalement on a des Européennes, des Européens très polarisés entre ceux qui veulent plus de climat et ceux qui n'y croient pas et en veulent moins? Comment vous analysez les choses?
Bah, ce qui est intéressant quand même, c'est que le message principal, c'est que finalement, la question climatique reste au sommet des préoccupations et que les Européens comme les Français demandent à leurs dirigeants d'être vraiment à la hauteur. Et donc, il n'est pas question dans leur tête d'abandonner ou de mettre en pause cette transition écologique à l'échelle européenne. Je pense que une fois que cela a été dit, il faut évidemment entrer un peu plus dans le détail sur quelle solution est la plus plébiscitée ou alors comment s'assurer que cette transition soit juste. Il y a de précédentes enquêtes qui montraient très bien, par exemple, que les Européens étaient en faveur d'une accélération de la transition écologique à condition qu'elle redistribue le coût et qu'elle distribue également les solutions de manière équitable entre les différentes catégories de la population. Donc, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui, quelque part, payent le prix de la transition, mais que par contre, les solutions, elles, soient justement distribuées. Et ça, c'est un point extrêmement important. Comment s'assurer que les classes moyennes et les plus précaires aient accès, par exemple, à la rénovation d'un logement ou à une pompe à chaleur ou à un véhicule électrique quand ils ont besoin d'une voiture. Ça fait partie des nœuds du problème d'avoir accès aux solutions de la transition. Et il faut espérer que le prochain mandat à l'échelle européenne va vraiment traiter cette dimension sociale, de la transition parce qu'on a eu le Pacte vert européen qui est un excellent outil de déploiement. Maintenant, il va vraiment falloir s'assurer que chacun ait accès, de manière équitable aux solutions. Et cette dimension sociale, je pense qu'elle sera extrêmement importante dans la suite, surtout étant donné qu'on est en train d'accélérer assez fortement la transition écologique.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté les résultats de cette étude et on passe maintenant au deuxième invité. Alors Sylvestre, je ne te présente pas, les auditrices et les auditeurs du Climat en question te connaissent bien, mais enfin ils te connaissent peut-être plus par le podcast que pour ton rôle de journaliste scientifique à Libération pendant plusieurs décennies, et puis comme auteur, puisque tu as publié un certain nombre de livres, en particulier donc celui-là, le GIEC Urgence Climat, le rapport incontestable expliqué à tous, qui est sorti aux éditions Talendier l'an dernier, donc finalement juste avant la publication du rapport de synthèse du sixième rapport du GIEC, et qui vient de ressortir en format poche. Donc justement, dans ce livre, tu fais le bilan, tu essayes d'expliquer au grand public ce que contient ce sixième rapport du GIEC, mais quand même, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a pu te motiver à écrire encore un livre sur le GIEC, alors qu'il y a beaucoup d'infographies, d'articles, de blogs, de vidéos YouTube pour expliquer ce rapport? Qu'est-ce qui t'a donné envie de publier un livre pour quand même essayer d'expliquer encore ce rapport? À qui est-ce que tu voulais t'adresser? Est-ce que finalement c'était vraiment nécessaire?
Oui, c'est nécessaire puisque à chaque fois que des instituts de sondage ou des sociologues interrogent les populations ou conduisent des enquêtes où on vérifie que des connaissances de base sur les mécanismes, les effets du réchauffement climatique et les moyens d'action, on s'aperçoit que tout ça demeure mal compris parmi de larges portions de la population, de toutes les populations du monde. J'aime bien citer l'exemple du nucléaire pour la France parce qu'il porte simultanément sur la cause du réchauffement et sur un moyen d'action. Lorsque l'ADEME montre que la majorité des jeunes Français croient que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz à effet de serre, on vérifie qu'il y a un gros problème sur leur compréhension des causes du réchauffement, qui sont pour l'essentiel l'usage massif des énergies fossiles, et que le débat citoyen politique sur les moyens d'action est entravé par une méconnaissance d'un de ces moyens d'action. Et par ailleurs, quand on écoute les débats politiques ou qu'on regarde les contenus journalistiques ou les décisions d'acteurs économiques importants, on vérifie que la diffusion du savoir de base sur le changement climatique parmi les soi-disant élites est encore à faire en grande partie au-delà même des refus tout à fait conscients, eux, des actions à conduire parce qu'elles mettent en cause les modèles de société choisis par ces élites.
D'accord, donc ça c'est le pourquoi tu as voulu écrire ce livre. Maintenant, comment est-ce que tu as fait pour le faire? Parce que quand même, résumer un rapport qui fait plus de 10 000 pages dans un livre plus condensé, enfin qui en fait quand même 250, c'est pas évident. Alors, comment tu as choisi quel passage ou quels éléments tu as souhaité mettre le plus en valeur?
L'objectif, très clair, c'était de passer des 10 000 pages des trois rapports complets des trois groupes à un livre d'environ 250 pages. Alors, comment faire ça? en faisant du journalisme, c'est-à-dire en hiérarchisant les informations des rapports complets pour en retenir les plus pertinentes. Ça, c'est pour la partie réduction du volume. Et ensuite, par un choix encore très rarement fait sur ce sujet, partir des textes du GIEC pour en tirer des extraits les moins transformés possibles, tout en parvenant à leur donner une forme lisible par le grand public. Et ça aussi, c'est un travail qui correspondait quand même à plus de 35 ans d'expérience du journalisme spécialisé en sciences et technologies que j'ai à mon actif. Le texte du livre, donc, du moins celui des trois chapitres principaux sur chacun des trois rapports du GIEC, donne un accès direct à la production des experts, mais élagué de ce qui en rend la lecture difficile pour la plupart des gens. Ce n'est pas glamour, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de discours enflammé sur les coupables ou les solutions miracles. C'est juste l'exposé des savoirs expertisés collectivement le plus factuel possible. Et je suis donc vraiment très heureux de voir qu'un tel livre ait rencontré un succès de librairie aussi marqué. C'est quand même la meilleure vente de l'année 2023 pour les éditions Talendier. Et ça m'a donné l'occasion de faire de nombreuses conférences et débats, notamment dans des universités, des grandes écoles, où c'est assez significatif que la CGT m'ait demandé de plancher devant sa direction confédérale nationale avec Valérie Masson-Delmotte pour lui présenter le rapport du GIEC.
Oui, et puis comme on l'a entendu en première partie d'épisode, c'est un sujet qui continue à intéresser et à préoccuper une grande partie des Européens. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. On a consacré beaucoup d'épisodes à la question de ce rapport du GIEC, en analysant les trois groupes de travail qu'il étudie. Alors, je vais quand même t'interroger sur les éléments qui, toi, te semblaient quand même importants à discuter, en commençant donc par le premier groupe, le groupe qui s'intéresse aux principes physiques et écologiques du changement climatique, c'est-à-dire globalement expliquer comment ça marche. Qu'est-ce qui était le plus compliqué expliquer par rapport aux résultats de ce groupe de travail-là?
En fait, le plus difficile pour les gens, c'est la dynamique temporelle des phénomènes physiques liés aux causes et conséquences du changement climatique, en particulier dans sa dimension d'inertie physique. La durée de vie très longue des molécules de CO2 dans l'atmosphère, environ un siècle, fait que des émissions actuelles auront encore un effet réchauffant dans un siècle. Cela produit deux effets qui sont rarement en phase avec notre expérience de la vie courante. Lorsqu'on freine, la voiture ralentit immédiatement ou presque et s'arrête assez vite, bon, sauf si on roule à 300 à l'heure. Lorsqu'on coupe le gaz sous la casserole, l'eau s'arrête de bouillir assez vite aussi. Avec le climat, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et surtout, en raison de cette longue durée de vie dans l'atmosphère des molécules de CO2 émises, les émissions de CO2 ont un effet cumulatif qui s'accroît au fur et à mesure que les années passent. De sorte que la courbe des conséquences, que ce soit pour les températures, la hausse du niveau marin ou les événements extrêmes, s'accélère avec le temps. Alors ce genre de dynamique, c'est bien connu des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, voire des biologistes. En revanche, elle ne fait pas partie en général de l'expérience commune de la vie quotidienne des gens. Et user de mots ou même de graphiques avec une représentation de ces dynamiques sur un siècle, ce n'est pas du tout évident pour les gens. On se heurte là à une culture scientifique souvent très rudimentaire. Or, c'est cette compréhension des dynamiques temporelles, de la nature comme des technologies, qui est nécessaire à la compréhension de la dynamique de l'action à conduire, et notamment son caractère d'urgence actuelle pour un futur qui peut être jugé lointain. Ce n'est pas du tout un problème trivial. Les ONG ont souvent tenté de le contourner avec des images symboles pour mobiliser l'émotion des gens. Je ne suis pas du tout convaincu par l'efficacité de cette démarche. C'est pourquoi j'ai mis un soin particulier à cet aspect des connaissances dans le texte du livre, notamment avec l'usage des graphiques du rapport du GIEC redessiné pour être plus facile à lire.
On laissera chacun se faire son idée sur cette question. Si je passe maintenant au groupe numéro 2, qui s'intéresse donc aux conséquences du réchauffement climatique, c'est quoi là les points les plus difficiles à expliquer?
Pour ce qui concerne les conséquences du réchauffement climatique et des adaptations possibles, il me semble que la méconnaissance principale, elle concerne l'appréciation de la gravité des problèmes, les conséquences, et du fait que les secondes ont à la fois des limites dures, au sens où l'adaptation ne peut pas nous protéger de toutes les conséquences, et nécessite souvent une action urgente afin de précéder les conséquences et non d'y succéder, parce que là, c'est trop tard. La gravité des conséquences commence quand même à percer dans les conscience des populations lors d'événements extrêmes, comme avec les températures qui ont frôlé les 50 degrés en Inde récemment, mais on est encore très loin d'une véritable compréhension de ce que des zones entières du globe vont devenir inhospitalières, voire inhabitables, que des cultures vivrières vont atteindre leurs limites thermiques et donc subir des chutes de rendement redoutables sous les tropiques, que le retrait des côtes marines va concerner directement des centaines de millions de personnes, etc. Paradoxalement, encore une fois, je suis persuadé que c'est l'exposé froid et analytique de ces défis qui a le plus de chances de convaincre de leur réalité, plutôt qu'un discours un peu catastrophiste à grands coups d'émotion.
Là aussi, on laissera chacun se faire son idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les résultats de l'enquête dont on parlait tout à l'heure montrent qu'il y a une vraie préoccupation et angoisse sur les conséquences du réchauffement climatique. Et alors, si on en vient maintenant aux éléments du groupe de travail numéro 3, qui s'intéresse donc aux actions pour lutter contre le réchauffement climatique, là, quels sont les éléments les plus difficiles à communiquer?
Alors, le groupe 3, il s'occupe donc des actions qu'on doit conduire pour diminuer la menace climatique, et évidemment, c'est essentiellement la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui me semble le moins compris pour ce travail du groupe 3, c'est la double dimension révolutionnaire des changements technologiques et sociétaux à conduire. Pour les technologies, en particulier celles liées à l'énergie, c'est simple, on doit passer d'un mix mondial qui est à 80% fossile à un mix mondial à 80% bas carbone, tout en ayant augmenté la disponibilité d'énergie pour les 4 milliards d'êtres humains qui souffrent de pénurie dans ce domaine. C'est phénoménal dans un laps de temps aussi court. Quant au sociétal, on se heurte à un problème majeur avec le GIEC. Comme il ne peut et ne doit que synthétiser la science publiée dans un esprit consensuel, il doit bien suivre l'état actuel des idées dans les sciences sociales et humaines, et notamment en économie. D'où la contradiction non résolue qui le conduit par exemple à affirmer que les inégalités de revenus et patrimoine actuels, ou le rôle de la publicité commerciale dans le consumérisme, sont incompatibles avec une politique climatique efficace, et ne rien dire sur les mécanismes socio-économiques qui produisent ces inégalités et cette publicité envahissante. Donc là, on a à la fois un enjeu de diffusion de ce qui est solide dans le rapport du groupe 3 du GIEC comme moyen d'action, et aussi une nécessaire vision un peu critique, finalement non pas du rapport du GIEC, mais de l'état des sciences économiques et sociales dans leur rapport au changement climatique.
Mais au-delà de ces messages qui sont en effet pas forcément faciles à expliquer au grand public, ton livre a une préface de Jean Jouzel qu'on a entendu dans de nombreux épisodes aussi du Climat en question, qui a suivi lui aussi depuis des décennies, participé au GIEC, au COP, et qui a aussi investi beaucoup de son temps pour faire des conférences pour le grand public pour expliquer les enjeux du réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement le GIEC publie des rapports depuis près de 30 ans, le savoir ne suffit pas, c'est pas juste une question d'être au courant, il faut vraiment que ce savoir se traduise en action, et donc on peut parler d'une sorte d'impuissance du savoir, et que finalement, pas pour être désagréable, mais un énième livre n'y suffira pas.
C'est vrai que l'on peut présenter cette évolution depuis 1990 avec cette formule très forte de l'impuissance du savoir. Elle a l'avantage de souligner que le savoir était disponible, et donc d'orienter la réflexion sur d'autres causes que l'ignorance, pour expliquer la trajectoire suivie depuis 90. Ces causes, elles sont vraiment multiples, et je ne vais en citer que deux pour faire court. La première, c'est le lien entre l'utilisation d'énergie, et d'énergie fossile en particulier, dans les actions pour diminuer ou éradiquer la pauvreté. Éradiquer la pauvreté étant déclaré par la Convention climat signée en 1992 comme quelque chose de prioritaire sur l'action pour lutter contre le changement climatique. Prenons un seul exemple. La Chine a fait passer ses émissions de CO2 issues des énergies fossiles entre 1990 et 2020 de 2 tonnes à 8 tonnes par habitant. Or, c'est en grande partie grâce ou à cause, comme vous voudrez, de cela que plus de 800 millions de Chinois sont sortis de la grande pauvreté défini par la Banque mondiale comme un revenu inférieur à 2 dollars par jour et par personne. La deuxième couche que je citerai, c'est que les mécanismes les plus profonds du système économique et social dominant, le capitalisme, pour l'appeler par ce nom, jouent contre les actions à conduire pour utiliser le moins possible d'énergie fossile. Le GIEC en a mis deux en exergue, les inégalités trop fortes de patrimoine et de revenus, avec la consommation des classes les plus riches qui fonctionnent comme le modèle social absolu de la réussite, et l'influence de la publicité commerciale de masse sur le rapport à la consommation, des riches comme des pauvres d'ailleurs. Mais il faut évidemment y ajouter le rôle de la propriété privée des moyens de production et d'échange qui conduit à des stratégies d'entreprise où le rendement financier maximal et le plus rapide possible des capitaux investis constitue la boussole principale des choix de gestion de court, moyen et long terme des directions. Alors, mettre en cause ces structures sociaux et économiques, c'est évidemment une difficulté majeure dont on ne voit pas, soyons francs, aujourd'hui une perspective de réalisation. Et donc, pour l'instant, on est dans une situation où on peut imaginer, entre guillemets, assez facilement, les ruptures technologiques qui permettraient de construire des sociétés bas carbone d'un point de vue de leur économie, de la vie quotidienne des gens, des transports, de la production des biens, etc. En revanche, tout ce qui concerne les entraves socio-économiques à des sociétés où la sobriété deviendrait le modèle de succès dans nos rapports entre hommes et femmes, entre populations et avec la nature, eh bien, pour l'instant, on ne l'entrevoit pas, cette perspective qui permettrait de faire cette deuxième révolution après celle de la technologie, indispensable pour atteindre les objectifs climatiques.
Eh bien, merci beaucoup Sylvestre pour cette présentation en un temps record de ce livre, le GIEC Urgence Climat, qu'on partagera donc sur les réseaux sociaux et qu'on vous invite évidemment toutes et tous à lire. C'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Un grand merci comme d'habitude à Alexandre Carrier, Fabrice Sétifier, Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sundom pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si les épisodes du climat en question vous intéressent, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et même YouTube. Vous pouvez également nous écrire par email le climat en question avec un s @ecomail.fr et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.